Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je remercie les organisatrices de cette très belle journée d'études. Je suis navrée de ne pas pouvoir être présente avec vous aujourd'hui. Mais j'espère tout de même en distanciel pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de cette belle réflexion sur les voix marginalisées. Effectivement, avec cette communication dont le titre est, comme tu nous l'as rappelé Amalia, « En marge des institutions, les voix de l'intime, surréalisme, exil et expérience féminine ». Donc cette communication portera plus particulièrement sur certaines manifestations du surréalisme au Mexique pour ce qui nous intéressera aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons voir ensemble les conditions de l'exil d'un certain nombre de surréalistes au Mexique et le contexte culturel auquel ils vont se confronter en arrivant justement dans le pays à partir de 1940. Si depuis la fin des années 1920, le surréalisme est un mouvement essentiellement parisien, les conflits de la Seconde Guerre mondiale marquent un point de rupture sans précédent pour de très nombreux artistes surréalistes qui vont être obligés de fuir le continent européen pour se réfugier pour certains à New York et pour d'autres au Mexique. En effet, la politique mexicaine de l'époque correspond à un accueil massif des exilés européens en lutte contre les manifestations du fascisme outre-Atlantique et c'est donc dans une conjoncture favorable que vont s'installer progressivement au Mexique de très nombreux artistes européens tels que Remedios Varo et son époux, le poète Benjamin Perret, les artistes peintres Alice Raon, mais également Wolfgang Paalen, la photographe Cathy Horna ou encore l'artiste anglaise pluridisciplinaire Leonora Carrington. Or, ces exilés vont se confronter à un contexte culturel mexicain qui va être peu favorable à l'intégration d'artistes étrangers. En effet, depuis la fin de la Révolution mexicaine, qui a lieu entre 1910 et 1920, la scène artistique est principalement dominée par le mouvement muraliste, c'est ce que l'on appelle l'école mexicaine de peinture, et donc une école qui est intimement liée au gouvernement post-révolutionnaire. Et donc par conséquent, à cette époque-là, l'art doit être au service de la Révolution et de l'État, et ce doit être politique, national, monumental et collectif, donc peu ou prou aux antipodes de ce que représente le mouvement surréaliste à la même époque. Et donc à cette époque-là, il y a trois grands artistes qui se partagent le devant de la scène, trois grands artistes dont les noms vous évoquera très certainement quelque chose, donc Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros et José Clemente Orozco, qui sont considérés comme les trois grands de la peinture muraliste. Par conséquent, les années 1940 inaugurent la convergence tumultueuse du nationalisme post-révolutionnaire mexicain, qui est incarné par le muralisme, et de l'internationalisme des avant-gardes européennes, incarné ici par le surréalisme. Et donc, ce conflit idéologique va donner lieu à un isolement des artistes européens qui ont du mal à s'intégrer à la sphère culturelle mexicaine. En effet, il y a peu de musées qui acceptent de les exposer. À cette époque-là, les galeries d'art moderne sont quasi inexistantes à Mexico et au Mexique de façon plus générale. Et bien entendu, la plupart des revues vont privilégier les auteurs mexicains. Néanmoins, aspect positif de cette marginalisation et de ce climat d'entre-soi, c'est qu'ils vont favoriser la création d'une véritable société d'exilés. Une société d'exilés qui va être fondée sur une amitié profonde et surtout une amitié féconde d'un point de vue artistique. Donc, par exemple, les nombreuses photographies de l'artiste hongroise Cathy Horna, que j'ai déjà mentionné précédemment, dont on peut voir deux exemples ici à l'écran, attestent de cette effervescence et mettent en scène le groupe, par exemple lors de soirées déguisées qu'ils organisaient les uns chez les autres, ou encore lors du mariage de l'artiste Leonora Carrington qui a lieu en 1946. Et en effet, on peut voir qu'ici, sur la photographie, sont réunis un certain nombre des artistes exilés. Il y a également certaines œuvres picturales qui vont témoigner de cette communauté d'affect. Par exemple, dans son tableau de 1944, intitulé « Los días de la calle Gabino Barreda », Günter Guerzo réalise ici un portrait de groupe des artistes en exil. Alors, Gabino Barreda, c'est le nom de la rue où vivaient ensemble Benjamin Perret et Remedios Varo, et où donc se réunissait très régulièrement le cercle d'amis exilés. On y retrouve ici le portrait allégorique de l'artiste Remedios Varo à la droite de la toile. Donc, il porte un masque, elle est enveloppée dans un drapé jaune et entourée d'étranges têtes de chat volantes, on va dire. Donc, à la droite de la toile, on retrouve le portrait allégorique de Remedios Varo et à gauche de la composition, on retrouve également le portrait allégorique de l'artiste Leonora Carrington qui est en fait un double portrait puisqu'on peut voir l'artiste en train de porter son propre buste. Et donc, le point de fuite de la composition mène notre regard au centre du tableau, où on peut voir qu'est représenté un foyer d'incendie, car il ne faut pas oublier que de l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe est en proie aux flammes, l'Europe est en proie au conflit mondial. Il s'agit donc ici d'une véritable méditation sur le statut d'exilé. En plus des difficultés d'intégration, ces artistes en exil connaissent également des difficultés d'ordre économique, et force est de constater que les femmes, plus que les hommes, vont être touchées par cette précarité économique et vont souffrir une double marginalisation culturelle, non seulement en tant qu'exilées, mais également en tant que femmes. Évincées de la sphère publique, du marché du travail et en l'absence de soutien officiel, l'espace domestique devient pour elles la seule alternative. Ce sont donc les maisons et ateliers qui vont se transformer en lieux privilégiés d'échange, de création et enfin d'exposition de leurs œuvres. Mais, bien entendu, loin de se complaire dans le rôle stéréotypé de la femme au foyer, ces artistes vont réinventer leur identité en passant par la réinvention de leur espace. Et donc nous allons voir à présent une analyse détaillée des œuvres de la peintre anglaise Leonora Carrington et de la peintre espagnole Remedios Varo. Et cette analyse détaillée va nous permettre d'étudier cette réappropriation de l'espace privé en vue d'une émancipation et d'une affirmation depuis les marges. Alors, Leonora Carrington et Remedios Varo, dont vous pouvez voir deux portraits à l'écran, étaient liés par une amitié profonde, une amitié qui se reflète notamment dans les très nombreux échos tant stylistiques qu'iconographiques que l'on peut retrouver dans leurs œuvres respectives. Et en effet, la thématique du foyer, la thématique de la maison, sont omniprésentes dans leurs œuvres. Alors, s'il peut sembler paradoxal que ces artistes aient exploité la thématique du foyer et de la domesticité, comme point de départ de leur émancipation, nous allons voir que cette iconographie s'inscrit dans une volonté de renverser les stéréotypes associés aux femmes et de transformer une fatalité initiale en un projet de création artistique. En effet, dans leurs œuvres, les activités domestiques ainsi que les rôles stéréotypés qui vont être associés à la femme sont envisagés comme autant de pratiques artistiques, poétiques, voire magiques, qui donnent lieu à une revalorisation de la femme et de l'étendue de ses pouvoirs de création. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais approfondir avec vous trois de ces rôles stéréotypés associés à la femme, à savoir la mère, la tisseuse et enfin la cuisinière. Chez Leonora Carrington, l'usage d'une iconographie associée à la maternité est régulièrement envisagé comme une métaphore ultime de l'acte de création. En effet, en donnant naissance, la femme se rapproche le plus de la figure de l'artiste, voire du démiurge, qui crée ex nihilo un être à sa propre image. Donc, par exemple, avec ces deux œuvres que l'on peut voir ici à l'écran de Leonora Carrington, donc Night Nursery et Neighborly Advice, donc ici on peut voir que la femme ou les femmes sont envisagées comme des figures protectrices et rassurantes. La maternité est ici une affaire collective. En effet, dans les deux œuvres, on peut voir un ensemble de femmes qui sont chacune associées à une couleur symbolique. Ces femmes surveillent un enfant, qu'il soit par exemple dans un lit en baldaquin dans la première œuvre ou dans un étrange berceau dans la seconde. Ici, la symbolique des couleurs qui est utilisée par l'artiste peut évoquer par exemple les bonnes fées du conte pour enfants La Belle au bois dormant. Et il me semble que cette association à la littérature jeunesse est particulièrement pertinente en ce qui concerne Leonora Carrington, puisqu'elle s'est réellement inspirée de ce genre de littérature, et elle s'est elle-même essayée à l'exercice de l'écriture de contes, des contes qui étaient destinés pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes. Toujours est-il qu'ici, le foyer est un espace propice aux rêves et à la création de nouveaux imaginaires. Et donc, j'insiste également sur la date de ces deux œuvres. Donc, les deux sont en effet réalisées en 1947, c'est-à-dire un an après la propre expérience de la maternité de l'artiste qui a lieu en 1946. Donc, on peut donc ici affirmer que la maternité a directement insufflé la pratique artistique de l'artiste. Chez Remedios Varo, ce n'est pas la figure de la mère, mais celle de la tisseuse ou de la brodeuse qui incarne au mieux le principe de création. Par exemple, dans cette œuvre que vous pouvez voir ici à l'écran, La Tejedora de Verona, donc enfermée entre quatre murs, la femme crée un avatar d'elle-même sur le point de s'échapper par la fenêtre. Et donc le tricot devient ici, dès lors, un moyen symbolique d'émancipation. Dans d'autres œuvres, telles que celle-ci, Bordando el manto terrestre, la tisseuse renvoie également au parc de la mythologie romaine, donc ces divinités maîtresses de la destinée humaine, une destinée qui, rappelons-le, ne tient qu'à un fil. Et donc ici, du haut d'une tour octogonale, on peut voir six figures féminines qui réinventent notre conception de l'univers du bout de leurs doigts effilés. Longtemps utilisé comme un instrument d'oppression et de marginalisation pour les femmes, l'art de la broderie se transforme ici en art divin de création. Caché dans les plis du tissu terrestre, c'est toute une cosmologie alternative et subversive qui se tisse sous nos yeux. Et donc par conséquent, chez Remedios Varo, la femme scelle le destin du monde et semble assurer la pérennité de l'édifice social. Mais s'il est un lieu qui incarne plus que tout autre le potentiel créateur de l'espace domestique, il s'agit bien de la cuisine. En effet, Remedios Varo et Leonora Carrington étaient toutes deux passionnées de magie et d'hermétisme et considéraient la cuisine comme un laboratoire alchimique. En effet, en établissant un pont entre les processus alchimiques de distillation, de transformation ou encore de transsubstantation et les expériences culinaires, cuisiner se fait pour elle un acte de création. Alors, d'un point de vue iconographique, de très nombreuses œuvres présentent des scènes de préparation, cuisson et autres concoctions qui vont être envisagées comme de véritables rituels domestiques. Alors, nous allons voir ici un exemple à l'écran avec une œuvre de Leonora Carrington de 1958 qui est intitulée « Santa Teresa en la cocina ». Donc ici, l'exercice culinaire est à l'origine d'une expérience extatique de lévitation, une expérience qui serait plus proche de l'imaginaire que l'on a du sabbat plutôt que de la liturgie chrétienne. En effet, plus qu'une casserole, c'est un chaudron qui est ici clairement représenté au centre de la composition. Et on peut également souligner la présence symbolique de certains aliments représentés, notamment la gousse d'ail que l'on retrouve dans de très nombreux contes de sorcières et de vampires, le chou qui est considéré par les alchimistes comme une rose mystique et qui serait une incarnation du principe de création, ou encore la symbolique de l'œuf, qui est un symbole universel de fertilité et d'abondance, qui serait au fondement même du procédé de transsubstantation alchimique. Donc, plus encore qu'un espace de création, dans toutes les œuvres que nous venons de voir jusqu'à présent, donc de Leonora Carrington et de Remedios Varo, le foyer semble revalorisé en tant qu'espace collectif d'entraide, exclusivement féminine et intergénérationnelle. Et il me semble qu'une œuvre de Leonora Carrington illustre parfaitement cette mise en scène d'une solidarité féminine au sein d'un espace domestique ritualisé. Donc c'est l'œuvre que vous pouvez voir ici à l'écran, qui s'intitule « The House Opposite » de 1945, donc « La maison d'en bas » en français. Donc ici, dans un univers narratif clos, nous pouvons voir évoluer divers groupes de personnages, exclusivement féminins, hein, une fois de plus, qui s'adonnent à leurs occupations respectives. Le tableau agit ici comme une métaphore de l'univers où sont présents de façon simultanée l'intérieur et l'extérieur, les régions hautes comme les régions basses, et enfin le microcosme et le macrocosme. Donc ici, tout est interconnecté finalement et s'intègre dans un réseau complexe de transformations symboliques de l'humain vers l'animal, du céleste vers le terrestre ou encore du visible vers l'invisible. C'est donc un monde en perpétuelle métamorphose qui est ici mis en scène. Et j'insiste sur ce terme de mise en scène qui me semble particulièrement pertinent puisque le quatrième mur disparu, nous, spectateurs, nous retrouvons face à un décor de théâtre, voire à une maison de poupées dans laquelle la femme va reprendre symboliquement le contrôle de sa vie. Et il est intéressant de souligner que cette esthétique, ou du moins cette composition en maison de poupée, est également présente dans d'autres œuvres de Leonora Carrington, dont une que nous avons déjà vue précédemment, Neighborly Advice. Et c'est également une esthétique qui va être reprise par la suite par des artistes féministes de la seconde vague féministe, donc à partir des années 70, notamment par l'artiste canadienne Myriam Shapiro et l'artiste anglaise Penny Slinger, dont vous pouvez voir deux exemples ici à l'écran. Ainsi, par l'exploration de la domesticité, ces artistes révèlent le caractère extraordinaire et révolutionnaire de la banalité quotidienne, une banalité qui est habituellement marginalisée de la sphère culturelle. Et comme le remarque très justement l'universitaire Suzanne Rubin-Souleyman, je cite, « Dans un système où le marginal, l'avant-garde, le subversif, tout ce qui dérange, défait le tout, est doté d'une valeur positive, une femme artiste qui peut identifier ses concepts avec sa propre pratique et métaphoriquement avec sa propre féminité peut trouver en eux une source de force et d'auto-légitimation. » Néanmoins, j'anticipe certaines oppositions qu'on pourrait formuler à ce que je viens d'exposer. Il serait possible de reprocher à ces artistes l'usage d'une iconographie dite féminine et donc de perpétuer un idéal de féminité qui serait doux, maternel, marginal, discret et surtout, pour reprendre le titre de cette journée d'études, silencieux. En effet, si j'annonçais à la fin de ma première partie une émancipation depuis les marges grâce à la réappropriation de l'espace domestique, nous nous retrouvons néanmoins devant un paradoxe non négligeable, à savoir comment justifier cette omniprésence de stéréotypes associant la femme à la sphère domestique sans tomber dans l'écueil d'un essentialisme véhiculé par une peinture considérée comme féminine. Bon, vaste programme, me direz-vous, j'en suis consciente. Déjà, est-ce qu'il existe une peinture féminine ? Très vaste programme. Bon, néanmoins, ce n'est pas notre sujet, donc je reformule le paradoxe que je viens d'évoquer ici. Comment expliquer l'omniprésence de ces images qui renvoient à un univers spécifiquement féminin et qui répondent aux injonctions de la société patriarcale, alors même que nos artistes tentent justement de s'en défaire pour s'assumer en tant que femme et en tant qu'artiste à part entière. Alors, nous avons parlé précédemment de rôle de la femme, de mise en scène au sein d'un espace domestique ritualisé, voire de quatrième mur. Par conséquent, la métaphore théâtrale semble offrir une clé de lecture intéressante pour tenter d'expliquer le paradoxe que je viens d'exposer. Et donc, c'est vers la psychanalyse que nous allons à présent nous tourner avec le concept de féminité mascarade. Donc, une fois de plus, le théâtre n'est pas très loin. Un concept qui a été théorisé par Joan Rivière en 1929 dans son article fondateur qui est intitulé « La féminité en tant que mascarade ». Alors, qu'est-ce que la féminité mascarade ? Selon Joan Rivière, il s'agit d'afficher une féminité de façade en répondant aux injonctions de la société patriarcale pour mieux agir dans l'ombre. Donc, c'est-à-dire que la féminité serait donc un masque social permettant à la femme de renégocier sa place dans la société en tant que sujet et donc d'accéder à une forme de reconnaissance publique. C'est ce que Joan Rivière appelle le désir de masculinité. Donc, accéder à une forme de reconnaissance publique, mais sans pour autant éveiller les soupçons ni s'attirer les foudres de l'homme pour qui ce désir de masculinité peut s'avérer particulièrement menaçant. Il s'agit donc d'une technique de diversion, c'est-à-dire, pour reformuler de façon un peu plus prosaïque, je fais mine d'être une femme douce et docile, donc correspondant aux attentes de la société, pour mieux mener derrière cet écran ou derrière ce masque un certain nombre d'activités dites ou considérées comme masculines. Nous sommes donc ici plongés dans l'univers du simulacre. On peut néanmoins se demander quelle distinction existe entre l'idée d'une féminité naturelle et le principe de féminité mascarade. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que selon Joan Rivière, il n'existe tout simplement pas de telle distinction. C'est-à-dire que la féminité soit fondamentale ou superficielle, elle est toujours la même chose, et par la même chose, l'autrice entend une mascarade qui dissimule un vide. C'est donc la notion même de féminité qui est ici entièrement remise en question. Alors, si on tente maintenant d'appliquer cette théorie à notre propos, il est possible d'affirmer que Leonora Carrington et Remedios Varo arborent le masque de la féminité par l'usage performé d'une iconographie dite féminine et par la revalorisation de l'espace domestique afin d'entreprendre ce qui leur était jusqu'alors interdit, à savoir de poursuivre leur activité de création et de s'affirmer en tant que femme et en tant qu'artiste dans le contexte culturel mexicain des années 1940. Nous sommes donc ici face à une double lecture de ces œuvres. À première vue, elles affichent une iconographie féminine, mais en réalité, elles réinventent et redéfinissent le rôle de la femme et de la femme artiste, plus particulièrement dans la société. En se réappropriant un certain nombre de stéréotypes associés au féminin, ces artistes revendiquent pour elles les sources de la création et soulignent l'inanité de certaines structures sociales. Donc, c'est-à-dire que plutôt qu'une opposition frontale, le féminin est ici évoqué par l'inversion, par le déplacement, voire par le renversement symbolique de sens, tel que le conceptualise Gayatri Spivak dans son œuvre phare qui est intitulée « In Other Worlds ». Par conséquent, le féminin cesse d'être synonyme de faiblesse et est revendiqué ici tel un étendard de créativité et d'émancipation. C'est donc pour conclure cette présentation, c'est donc depuis l'espace confiné du foyer qu'un certain nombre de femmes artistes surréalistes renégocient leur place dans la société mexicaine des années 1940. Contraintes à l'exil et aux difficultés socio-économiques que cela suppose, elles réinvestissent positivement l'espace qu'elles connaissent le mieux et fréquentent le plus, c'est-à-dire leur maison. Pour la première fois jugé digne de représentation, le foyer est envisagé non seulement comme un espace de création et d'expression alternative, mais également comme un lieu de sociabilité privilégié. D'une pièce à l'autre de la maison, la création artistique prime et permet à ces artistes, qu'elles soient mères, tisseuses, cuisinières ou autres, de se revendiquer en tant que femmes et artistes à part entière. D'où la nécessité peut-être de trouver une chambre à soi. De l'impossibilité de l'affirmation publique à la revalorisation de l'espace privé, c'est la conception même de la féminité qui est ainsi remise en question au fil de leurs œuvres, une féminité arborée tel un masque pour mieux interroger et faire évoluer les structures sociales. Notons néanmoins qu'un changement s'opère à partir des années 1950, les années 50 qui inaugurent les premières expositions personnelles de ces artistes au Mexique, en 1955 pour Remedios Varo et en 1956 pour Leonora Carrington. Il faut cependant attendre la fin des années 60 et un changement radical de paradigme dans l'art et dans la société mexicaine, hein, notons que la deuxième vague féministe n'est pas très loin, pour que leurs œuvres soient enfin exposées dans des institutions publiques gouvernementales, entérinant de la sorte leur reconnaissance officielle et leur intégration au patrimoine culturel mexicain. Donc, de l'espace domestique à l'Instituto Nacional de Bellas Artes, ces femmes artistes sont parvenues progressivement à s'imposer dans l'espace public depuis les marges de leur foyer. Je vous remercie pour votre attention.
Alors, c'est une question plutôt destinée à Célia. Tu nous as parlé du coup de ces deux artistes femmes qui mettent en scène un espace généralement silencieux ou passé sous silence qu'est le foyer, si j'ai bien compris. Et je me demandais déjà s'il y avait d'autres artistes femmes qui faisaient ça à cette même époque ou si c'est vraiment propre à ces deux artistes. Et ensuite, savoir si éventuellement des artistes hommes ont une démarche similaire et si oui, avec quel espace ils ont cette démarche, si ça existe.
Alors, ben, je te remercie de cette question tout d'abord. En ce qui concerne d'autres artistes qui ont exploré l'espace domestique, alors oui, c'est une thématique qui est honnêtement commune à de très nombreuses femmes artistes. Et il y a eu notamment une très belle exposition qui s'est tenue à la Monnaie de Paris. Alors, il me semble que c'était en 2014, mais il faudra vérifier la date, j'ai peur de dire des bêtises. Une exposition qui s'appelle Woman House, qui se centre justement sur la représentation notamment des stéréotypes associés à la femme, de la femme au foyer et compagnie, et de la réappropriation de cet espace-là. Donc c'est une exposition qui m'avait grandement marquée et qui m'a bien entendu inspirée pour cette communication. Donc voilà, c'est vraiment une thématique qui est commune à de très nombreuses artistes et c'est intéressant justement pour rebondir avec la deuxième partie de ta question, parce que ce qui est abordé dans cette exposition, c'est justement la dichotomie qu'on peut retrouver entre d'un côté un espace privé, de l'ordre de l'intime, et d'un autre côté un espace public. Oui, c'est ça, public. Et force est de constater malheureusement que les hommes ont davantage accès à cet espace public que les femmes, et donc que les hommes vont davantage réinvestir au sein de leurs œuvres cet espace public plutôt que des femmes qui vont se retrouver davantage cantonnées au sein d'un espace domestique. Après, je ne voudrais pas non plus faire de généralisation, j'imagine que des artistes masculins ont également abordé ces thématiques-là, je n'ai pas d'exemple en tête pour l'heure, mais force est de constater que les femmes se sont davantage intéressées à ce milieu-là, et c'est pour cela qu'il est intéressant de s'interroger sur la raison du pourquoi. Et en général, c'est parce qu'il y a eu une marginalisation de la part des sphères publiques, de la part des sphères institutionnelles, et qu'elles ont donc réinterprété finalement les matériaux qu'elles avaient à leur disposition. Et pardon, en ce qui concerne par exemple des artistes, dans ma communication, j'ai parlé de Myriam Shapiro et de Penny Slinger, qui sont deux autres exemples, mais pour des artistes peut-être plus connus par vous toutes et tous, on a notamment Niki de Saint-Phalle, là je suis en train d'y songer, qui a beaucoup aussi travaillé sur cette notion de la domesticité.
Merci beaucoup Célia.
Par rapport à la thématique du silence, je me demandais ce que leur exil au Mexique changeait par rapport à justement à ces notions de marginalité et de centre. Ce que tu as évoqué au début, leur difficile intégration dans le contexte culturel mexicain, donc celui du muralisme post-révolutionnaire, et j'imagine aussi dans un pays qui est très largement machiste encore aujourd'hui. Bien sûr, ça fait penser évidemment à Frida Kahlo, qui, même si c'est une figure qui a été remise à l'honneur très récemment, à l'époque, elle était largement quand même occultée par sa star de mari. Et donc je me demandais si en Europe, elles rencontraient les mêmes difficultés dans leur expression artistique, ou si justement leur position d'étranger les placer légèrement à part et leur donner plus de liberté au Mexique. Donc si justement ce statut d'exilé était un frein ou au contraire leur donner une marge de liberté plus grande. Donc en fait ma question c'est surtout quelle est la pertinence ou l'influence du contexte mexicain dans leur création, si elles produisaient déjà ce type d'art en Europe ou qu'est-ce que ça a changé par rapport à leur revendication d'être au Mexique.
Alors, bon, merci pour cette question. L'exil, bien entendu, il est abordé davantage d'un point de vue créatif. Il y a eu une véritable réaction, on va dire, créative et artistique face à cette condition socio-économique particulière qui est l'exil. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on peut voir effectivement les prémices, parce que bon, ces femmes-là, elles étaient déjà marginalisées malgré tout en Europe, peut-être moins de la société, mais en tout cas du mouvement surréaliste, qui était un mouvement très hiérarchisé, avec la figure du chef de file d'André Breton, qui prenait également toute la place sur le devant de la scène artistique culturelle de l'époque. Donc, elles avaient une forme de marginalisation vis-à-vis de cette figure-là. Donc, on peut voir certaines prémices de ces réflexions de la domesticité, de la signature de la femme à une place très précise dans leurs œuvres de jeunesse. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que leur arrivée au Mexique correspond réellement à un développement sans précédent de leur production artistique, ce que l'on appelle en général leur maturité artistique, qui a même parfois donné lieu à des changements de médium. Je pense notamment à Leonora Carrington, qui avant son exil au Mexique a surtout, alors elle peignait déjà un petit peu, mais elle a surtout développé son travail littéraire. Elle écrivait beaucoup de contes notamment, et elle est surtout passée à la peinture à partir de son arrivée au Mexique. De la même façon, ce qui est intéressant de constater chez Remedios Varo, par exemple, c'est que ses œuvres de jeunesse vont être très influencées par les techniques surréalistes de l'époque. On connaît tous le collage, le frottage, l'écriture automatique, qui étaient des exercices de style plus ou moins imposés finalement aux membres du mouvement surréaliste. Donc elle s'ancrait véritablement dans une veine surréaliste. Et à partir du moment où elle arrive au Mexique, malgré les contraintes, malgré la marginalisation, il y a effectivement un espace de liberté qui s'est créé et qui lui a permis de développer un art qui serait davantage de l'ordre de l'expression personnelle au sein de ses œuvres. Donc effectivement, l'exil a permis un véritable développement de leur pratique artistique.
Merci Célia. Mais justement, il y a aussi d'autres artistes mexicaines qui parlent aussi de l'intime et de l'espace domestique. Et donc, je me demandais si... oui, si tu as parlé de Women's House, en fait, c'est une condition qui était plutôt partagée à l'époque et qui commence à se développer, j'imagine, à ce moment-là, non, même dans d'autres contextes que celui du Mexique ou même en Europe, j'imagine. Pardon.
C'est-à-dire de se réapproprier justement cet espace-là domestique et d'en faire une force. Oui, complètement. Et ça s'inscrit dans la pensée féministe également de la première vague puis de la seconde vague. Et on le voit à partir des années 70. C'est une des thématiques principales qui va être exploitée par des artistes féministes. Et j'insiste sur le fait que les artistes sur lesquels je me suis concentrée ne sont pas féministes ou du moins ne se sont jamais revendiquées comme telles. On peut les considérer comme des précurseuses où elles ont certainement anticipé de très nombreuses thématiques, mais elles-mêmes n'étaient pas actives d'un point de vue politique et n'étaient pas militantes.